Le jardinier de Versailles est dans le studio de France Inter, la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour, il est heureux d'être ici. Bonjour Patricia, bonjour Monsieur Debré, bonjour à toutes et à tous.
Jean-Louis Debré qui sera notre invité dans un instant. Alain, il existe une très grande diversité de solanums, Quesacos solanum.
Et oui, les solanums sont des plantes de la famille des solanacées, d'où leur nom, et à laquelle appartiennent les aubergines, les pommes de terre, les tomates, ou encore le cerisier de Jérusalem, un petit arbuste connu de tous.
Enfin, connu de tous, moi c'est la première fois que j'en entends parler tout de même.
Et oui, logique, car il est surtout appelé cerisier, ou mieux encore, pommier d'amour, solanum pseudo-capsicum. Le pommier d'amour, qui n'a de pommier que le nom, est originaire d'Amérique du Sud, du Brésil pour être plus précis, et il peut atteindre dans son pays un mètre de hauteur. Sous nos climats, il est cultivé comme plante d'intérieur et comme bonsaï, et l'on en trouve surtout chez les fleuristes pendant les fêtes de fin d'année. Enfin, je dis, on en trouve, c'était surtout vrai il y a une vingtaine d'années, où là, il était vraiment à la mode, pas un fleuriste qui ne vendait alors le précieux pommier d'amour.
Le pommier d'amour qui est donc moins à la mode aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on le nomme ainsi pommier d'amour?
Pour ces petits fruits qui pourraient faire penser à des pommes, même s'ils ne sont que de la grosseur d'une cerise, d'où l'autre nom, cerisier d'amour.
Et cette petite cerise, petite pomme, elles sont comestibles?
Et la question est importante, la réponse sera donc précise. Non, ils ne le sont pas. Ils contiennent un alcaloïde toxique, la solanine. Leur toxicité est fonction de leur couleur. Un peu quand ils sont rouges, donc à maturité, davantage quand les fruits sont oranges, et franchement toxiques quand ils sont verts. Mais il ne faut pas non plus s'affoler pour autant, et simplement faire attention avec les enfants qui seraient tentés d'en cueillir, car ils sont véritablement appétissants. Ingérer un fruit n'est pas un drame, même si cela peut provoquer quelques petites nausées, mais laisser un gamin se servir sur la plante et les boulotter comme ça pourrait être lourd de conséquences, avec des troubles digestifs, voire des vomissements. Oui, Patricia Martin, il faut toujours se souvenir qu'une plante, même si elle s'appelle amour, peut être source de déconvenues.
Alain Baraton, à présent vos conseils aux questions des auditeurs et auditrices de France Inter. Oui, vous pouvez répondre,
oui,
Patricia, après tout. Une petite claque sur le dos du crâne et ça fera l'affaire en guise de réponse. Arnaud vous demande, Alain Baraton, depuis les événements climatiques de juillet 2018, les grosses racines de mon érable sont devenues apparentes. La terre argileuse s'est enfoncée de 5 cm. Alors, est-ce dangereux pour la stabilité de l'arbre? Et d'ailleurs, dois-je recouvrir les racines de terre?
Oui, il y a quelques problèmes effectivement où l'on constate que l'arbre semble comme sortir de terre. Soit ce sont les terres, j'allais dire en surface, qui sont ravinées par les pluies torrentielles et qui laissent apparaître les racines. Soit effectivement, c'est la diminution de la nappe phréatique qui provoque un effondrement de la terre. On le voit sur les maisons qui se fissurent. Et bien les arbres parfois se retrouvent avec des racines à l'extérieur. Donc oui, il est possible de recouvrir les racines. Attention, uniquement lorsque l'arbre a subi un choc tel que je viens de le décrire, et ne jamais aller au-delà du collet. Le collet, c'est la partie intermédiaire entre la partie extérieure et souterraine. Le collet, c'est la partie
de
jonction.
C'est le début du tronc, près de la terre.
Voilà, là où les racines vont rejoindre le tronc. Ne jamais enterrer le collet, mais oui, il est donc possible de recouvrir les racines d'un arbre sans préjudice. C'est la raison pour laquelle parfois je m'insurge, je peste contre les abattages d'arbres. Par exemple, dans les cimetières, sous prétexte qu'on ne peut pas faire rouler des fauteuils roulants, on peut comprendre que tout le monde est en droit d'aller se recueillir, mais on peut peut-être, au lieu de couper un végétal, remonter le niveau du sol et préserver ainsi les vieux végétaux.
Alain Baraton,
on peut recouvrir.
L'amoureux des arbres.
Oh, à propos des arbres, je voulais quand même saluer une décision de justice. Nous en avions beaucoup parlé ici même au micro d'Inter. Les arbres de Gien, la justice a ordonné donc le non-abattage des arbres qui pourront rester debout. Le maire a décidé de ne pas faire appel de cette décision. Les arbres de Gien vont continuer à vivre et c'est une bonne nouvelle.
Question de Thomas. Comme c'est l'automne, les feuilles tombent. Existe-t-il, demande Thomas, une astuce pour ralentir la chute des feuilles?
Pas davantage que celle qui pourrait ralentir la chute des cheveux. Non, Madame Martin, ne dites rien.
Je n'ai rien.
Je vous cherche, je vous taquine. Non, les plantes réagissent avec l'arrivée de l'hiver. Ce n'est pas seulement la pluie, ce n'est pas seulement le froid qui fait chuter les feuilles. Ce sont tout simplement, c'est la réduction de la luminosité. Donc l'apparition effectivement de l'automne fait chuter les feuilles. C'est un processus naturel et je ne connais pas de technique. Enfin, si. la lumière artificielle. On pourrait observer dans les villes certains arbres près d'un réverbère. Les feuilles apparaissent plutôt au printemps et plus tardivement en automne, mais c'était pas une bonne chose. Les plantes comme les jardiniers ont besoin de se reposer.
Avec la lumière, les feuilles verdissent, c'est la fameuse photosynthèse.
Tout à fait.
Elisabeth a un camélia en pot, elle l'a rempoté avec de la terre de bruyère après la floraison, mais, depuis quelques semaines, écrit-elle, les feuilles jaunissent et j'ai remarqué que des radicules sortaient de terre au milieu du pot. Pourquoi ? D'abord, les radicules, c'est quoi ?
Ce sont les petites racines blanches qui permettent à la plante d'absorber l'eau, donc les sels minéraux et les oligo-éléments. Et le problème, que quand on voit toutes ces petites racines blanches apparaître au milieu du pot, il y a fort à parier qu'au moment de la transplantation, on n'a pas déroulé les racines. La plante, le camélia, restait certainement trop longtemps dans son contenant. Les racines se sont entourées et ont continué de se développer comme si elles étaient encore prisonnières. Et les racines qui sont celles qui permettent à la plante de respirer, de se nourrir, eh bien n'ont pour échappatoire que la partie centrale. Il faut donc ébouriffer les racines quand on plante une plante.
Une dernière question, celle de Marine qui voudrait faire reverdir sa pelouse. Est-ce que je dois l'arroser, vous demande-t-elle ?
L'eau est précieuse, l'automne arrive, l'humidité est de retour, tout va rentrer dans l'ordre très très vite.
Un dernier conseil, une balade pour le week-end.
Une très belle promenade, Varengeville-sur-Mer, c'est la journée des plantes de Varengeville justement. Aujourd'hui et demain, l'occasion de participer à des conférences, de visiter les jardins magnifiques. En un mot, c'est que du bonheur. Et je vous rappelle que Varengeville, c'est dans la Seine-Maritime.
Alain Baraton, le jardinier de Versailles avec sa main verte. À demain, Alain.
À demain.